Bien, ben, bonjour à tous et merci de votre invitation. On est content, l'équipe des Phonotes, de venir témoigner de notre expérience. Donc je commencerai par dire que nous sommes du secteur médico-social, pas du sanitaire, et que dans le secteur médico-social, on se préoccupe aussi des familles et des aidants en particulier. Alors les Phonotes, Marie-Hélène l'a dit, hein, c'est un mot original et sympathique, mais c'est un terme typiquement lyonnais, et c'est effectivement la fille du Gon à la Croix-Rousse, pour ceux qui sont lyonnais. Donc, on va déjà réfléchir sur qui est aidant familial. Donc, oui, ça va un peu vite. Alors, en 2007, le guide de l'aidant familial définit l'aidant comme la personne qui vient en aide à titre non professionnel, en partie ou totalement, à une personne âgée dépendante ou une personne en situation de handicap de son entourage pour des activités de la vie quotidienne. Donc ça, c'est la définition du guide des aidants. Alors, les aidants familiaux en quelques chiffres, 8,3 millions d'aidants familiales en France. C'est une enquête de la MAXIF hein, qui nous donne ces éléments. L'âge moyen des aidants familiaux serait de 52 ans. 47%, presque la moitié, ont un emploi. 25% de ces aidants ont pris un congé pour assurer leur rôle d'aidant. 33% sont à la retraite. 74% sont des femmes, tiens donc. 50% vivent avec la personne aidée. Et seulement 2% ont suivi une formation pour assurer leur rôle d'aidant. Donc, les difficultés qui sont exprimées par les aidants familiaux, c'est déjà ne pas savoir comment va évoluer la situation du proche qu'ils aident. On en a parlé tout à l'heure, hein, suite à, par exemple, un grave traumatisme crânien. Mais tout au long du parcours de la personne en situation de handicap, depuis l'accident, si c'est un accident de vie, ben, cette famille, elle s'interroge sur l'évolution de son proche. Une autre difficulté, c'est le fait que la relation avec leur proche ait changé. Ça aussi, on en a parlé. C'est sûr que parfois, on ne reconnaît pas son proche après un problème accident, après que le handicap soit survenu. Et puis, le sentiment d'en faire trop et de ne plus avoir une minute pour eux. Ces aidants ont quand même ce sentiment-là pour 36%. Ils l'ont pas tous, on verra. Alors, quelles sont les conséquences pour les aidants familiaux ? Eh bien, c'est un risque de renoncement progressif à ses besoins propres. C'est-à-dire que dans cette histoire, on peut s'oublier jusqu'au plus essentiel, comme dormir et se nourrir correctement. Une autre conséquence, c'est une situation d'épuisement. Épuisement qui va être préjudiciable pour sa santé physique, psychique. Et puis, d'être aidant familial, ça peut entraîner de s'isoler socialement, de ses amis et parfois même du reste de sa famille. Alors notre projet, il est né en 2007. Marie-Hélène qui est là en est l'initiatrice. Donc il y a eu en 2007 la création d'un groupe projet à la délégation APF du Rhône. Et donc effectivement, elle s'est inspirée du concept québécois dont on entend beaucoup parler aujourd'hui avec les différents... Avec les différents plans d'aide par rapport aux personnes âgées, c'est les baluches sonneuses Alzheimer qui ont été créées au Québec en juillet 1999. Ensuite, il y a eu au niveau de la délégation une enquête qui a été faite pour essayer de mettre en avant les besoins des familles. Et puis en janvier 2009, la création du service des Phonotes avec l'embauche d'une coordinatrice à mi-temps. Donc à l'époque, ce service, eh bien, il était né de la délégation APF et financé par la vie associative de l'APF et donc pas par les pouvoirs publics. En mai 2011, justement, pour que ce service puisse éventuellement, en l'espérant, se faire financer par notamment le Conseil général, on lui a fait rejoindre une structure médico-sociale, celle que je dirige, qui s'appelle le CESVAD. Donc le CESVAD, c'est Service spécialisé pour une vie autonome à domicile. C'est un ensemble de services, c'est un dispositif qui s'adresse uniquement aux personnes en situation de handicap qui vivent à domicile. que ce soit leur domicile ou que ce soit un domicile qu'on va leur louer pendant quelque temps pour un apprentissage. Donc dans ce service, on a deux services d'accompagnement à la vie sociale. Un SAMSA, qui est un service d'accompagnement à la vie sociale médicalisé. Un Habitat Service, donc ces logements qu'on propose d'apprentissage. Une garde itinérante de nuit, mon petit projet expérimental qui permet aux personnes en situation de handicap d'avoir de l'aide la nuit. Les Fenotes depuis 2011, et puis encore un SIAD aujourd'hui. Donc tous ces services c'est dans une complémentarité qu'on peut offrir ces services aux personnes en situation de handicap. Et dans les agréments de ces services, au niveau réglementaire, l'aide aux aidants, c'est une des missions, que ce soit d'un SAVS, d'un SAMSA, ça fait partie des missions. Mais on a préféré, nous, du fait de ce service qui était né sur la délégation, quand même faire en sorte que l'offre des aidants soit distincte du service d'accompagnement ou du SAMSA. Justine pourrait en parler, parce que c'est pas simple d'accompagner la personne en situation de handicap et sa famille, et de la faire accompagner par les mêmes accompagnants. À un moment donné, il est important que ce ne soient pas les mêmes personnes qui accompagnent. Donc là, aujourd'hui, c'est possible, puisque si on repère des aidants familiaux d'un usager qu'on suit au SAVS, on va plutôt l'orienter vers le service des Fenotes, où il aura d'autres interlocuteurs qu'au niveau du service d'accompagnement. Alors, les aidants familiaux concernés, pour nous, dans le secteur médico-social, on ne parle pas de patients, on parle d'usagers. Et bien, pour nous, les usagers, ce sont les aidants familiaux des personnes. Ce ne sont pas les personnes en situation de handicap pour les Fenotes. Par contre, elles sont aidantes de personnes en situation de handicap. Donc, le Conseil général nous avait demandé d'essayer d'élargir notre offre à tout type de handicap. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas restreint au handicap moteur. Pour les personnes qui sont âgées de 4 ans, sans limite d'âge, mais par contre, on ne va pas soutenir des aidants dont la personne en situation de handicap est âgée. C'est-à-dire qu'il faut que le handicap ne soit pas dû à l'âge. Il existe d'autres types de services, notamment sur le Rhône, pour les personnes qui sont malades d'Alzheimer. Et donc, nous, on est bien sur le secteur du handicap. Et ces personnes vivent à domicile, encore que, là, on a un petit peu évolué, puisqu'on a pu aider aussi, notamment une épouse d'un monsieur qui était donc en situation de handicap, qui finalement avait été orienté vers une EHPAD, et on a continué à aider cette personne, même si son mari n'était plus à domicile. Donc le domicile, voilà, c'est pas complètement fermé, mais c'est pas des personnes qui sont à l'hôpital. Alors ça, c'est la plaquette de notre service, hein, je vais vite, on en a apporté. Donc plusieurs volets, le titre de l'intervention, c'était que l'aide aux aidants, ce n'était pas que le répit. Donc, et pourtant, c'est par là qu'on a commencé. Marie-Hélène, c'est vraiment l'objet de la création de ce service, c'était de créer du répit. Hein. Donc le répit, ben, son objectif, c'est de répondre aux besoins, avoir du temps pour soi, prévenir l'épuisement de l'aidant familial, lui permettre de prendre du temps pour lui, le déculpabiliser par rapport à une solution de placement, qu'elle soit temporaire ou peut-être durable, et puis l'aider à maintenir son organisation habituelle, malgré son rôle d'aidant. Alors le répit, c'était en gros l'idée du baluchonnage, c'est que une personne vient à domicile vous remplacer l'aidant, pendant que l'aidant aura une activité, et la personne handicapée reste à domicile, et c'est donc l'aidant professionnel, pour le coup, qui vient à domicile. Ça, c'est l'idée du baluchonnage, et c'était notre premier volet, qui bien sûr perdure, mais au fil du temps, on s'est rendu compte que la demande des aidants, ce n'était pas seulement d'être remplacé, c'était aussi d'avoir beaucoup plus de connaissances, d'avoir du soutien psychologique, relationnel, et c'est pour ça qu'on a mis en place au fil des années d'autres volets. Donc là, c'est quelques chiffres, c'est simplement pour vous dire que le Conseil général, quand on se bat avec lui pour qu'il finance ce service, parce que je vous dirai à la fin qu'il n'est toujours pas financé et pas pérenne, il nous dit toujours, mais vous faites combien d'heures de fenotage? Voilà, ce qui l'intéresse, c'est des chiffres. Et en fait, l'offre de répit, c'est du qualitatif, c'est pas du quantitatif. Parce que c'est pas facile d'aller au-devant des aidants, de les aider à se déculpabiliser. Et il faut du temps, il faut donner du temps au temps. Et effectivement, aujourd'hui, bah, on est sur l'ordre de 19 à 20 familles qui sont aidées au niveau du répit. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une fenote qui va à leur domicile pour les remplacer, soit quelques heures, soit un peu plus. Parce que c'est vrai qu'on ne va pas calculer l'intérêt de ce service au nombre. Et ça, c'est difficile hein, aujourd'hui. Alors, le volet 2, c'était le deuxième, sont les formations. Alors, plus que des formations, c'est beaucoup de l'information des familles. C'est répondre aux besoins de soutien technique. Parce que l'aidant familial, ben, il est effectivement sur du relationnel, de l'aide psychologique, etc. Mais il a aussi besoin de monter un dossier, d'avoir des connaissances. Donc on peut les reconnaître et valoriser ses compétences de l'aidant familial en lui apportant des réponses à des questions qu'il aurait. Et puis favoriser sa compréhension, par exemple, des conséquences de la pathologie de l'aider. Sortir les familles de leur sentiment d'isolement. Donc vous voyez, les formations, il peut y avoir beaucoup de thèmes que les familles vont choisir. Donc, on appelle ça le mardi des aidants, deux fois par mois. Donc, le mardi après-midi est réservé au CESVAD pour les aidants. Et sessions de formation se passent à ce moment-là. Donc, il y a deux modules par mois. Et donc, ce sont des formations de 2 heures qui sont gratuites. Il suffit de s'inscrire auprès de la coordinatrice des fenêtres. Voilà, donc quelques exemples. Le module psychologique sur la relation aidant-aidé, le module juridique, MDPH, évolution des lois, module ergothérapie, les aides techniques, la démarche d'ergomotricité. On travaille à Lyon avec l'association Frias Mieux Vivre qui propose un appartement d'octologie qui simule un petit peu les aménagements qu'on peut faire, les aides techniques qu'on peut apporter. Et donc les familles se rendent dans ce logement. Et c'est vrai que ne serait-ce qu'au niveau de la manutention, quand il s'agit d'une personne en situation de handicap moteur, les familles ont besoin d'informations pour se protéger et pour apprendre aussi, parce qu'elles ne sont pas professionnelles, à lever la personne dans de bonnes conditions. Donc les thèmes sont très variables. Au niveau juridique, on travaille avec une association qui s'appelle Juris Santé, qui travaille toujours en partenariat le plus possible et sous forme avec des conventions. Et les modules juridiques les plus intéressants, les plus demandés, c'est tout ce qui concerne les directives anticipées, les mesures de protection, également, bien sûr, la prestation de compensation du handicap. Enfin, les aidants ont besoin d'avoir des informations pour régler un dossier, mais aussi plus tard, quand je ne serai plus là, qu'est-ce qu'il existe. Et aujourd'hui, la loi a évolué. Et les directives anticipées, c'est quelque chose auquel il faut penser avant. Il y a aussi le mandat de protection future. Aujourd'hui, je gère. Demain, comment je pourrais faire? Et là, il y a des choses précises qui sont complexes et que l'association peut apporter les réponses. Voilà, donc ça, c'est le programme de formation qu'on envoie à tous les aidants. Alors, tout à l'heure, on vous a parlé de 14 familles. C'est celles qui ont accès au répit, qui demandent du répit. Par contre, on a une file active qui est beaucoup plus importante et on envoie à toutes ces familles les formations et elles peuvent s'y inscrire une fois ou l'autre. Alors, le troisième volet, Justine, je vous laisse.
Il y a un groupe de parole qui existe quasiment depuis le début, que Marie-Hélène animait au départ et puis j'ai pris son relais. Donc, moi, je suis psychologue sur le service des fenêtres. Il faut savoir que je travaille à 10% de mon temps de travail sur le service des fenêtres, donc c'est 3h30 par semaine. Pour info, voilà, je suis pas à temps plein sur ce service-là. Et pourtant, il y a beaucoup de besoins et de demandes. Donc, on a un groupe de parole qui a lieu une fois par mois. L'idée, c'était vraiment d'offrir un temps convivial pour les aidants familiaux. Alors voilà, ça va être un café, un thé, des gâteaux. Et qu'ils puissent parler de leur vécu d'aidant, parler de leurs émotions, de leur situation de colère. Alors, beaucoup par rapport aux équipes médicales, le vécu par rapport à l'hôpital, le retour à la maison un peu brutal, comment est-ce qu'on programme les vacances. Et qui puisse apporter un réel soutien social. On voit bien que le soutien social, c'est quelque chose qui prémunit contre notamment les risques cardiovasculaires, etc. Plus on a un réseau social important, et plus on va être protégé face à la détresse psychique, bien évidemment, mais aussi au niveau de la santé physique. L'intérêt aussi, c'était de permettre aux aidants de se rencontrer, qu'ils soient conjoints, enfants, parents de personnes en situation de handicap, que la pathologie soit parfois différente, Il y a un vécu qui peut être commun, il y a une expérience qui peut être partagée, des tuyaux qui peuvent être échangés aussi. Donc l'objectif, c'était de favoriser ça. Et il y a des gens qui ont créé des liens et qui se sont vus en dehors des groupes de parole aussi. Et voilà, on en a vu vraiment l'intérêt. L'idée, c'est aussi de travailler la déculpabilisation. Le groupe de parole, c'est plus facile que le suivi individuel psychologique. Hein, pour aller vers le groupe de parole, c'est un peu plus facile. On a pas mal de personnes, pardon, qui sont aussi arrivées au groupe de parole par via des formations. Les formations, il faut savoir que c'est quelque chose qui a été très développé au départ. Pourquoi ? Parce que aller en formation, c'est acceptable. Laisser son proche en situation de handicap pour aller à une formation pour pouvoir l'aider au mieux après, c'est acceptable. Aller voir un psychologue ou aller à un groupe de parole, c'est un peu compliqué. Prendre du répit, on n'en parle même pas, c'est encore beaucoup plus compliqué. Donc la formation, c'était vraiment le premier volet qui a été très très développé. Le groupe de parole, c'est quelque chose qui marche bien aussi. Voilà.
Alors le volet 4, ben Marie-Hélène pourra en parler, c'est elle qui l'anime, hein. C'est un groupe de relaxation, donc c'est répondre au besoin d'avoir du temps pour soi, prévenir l'épuisement, donc c'est une séance par mois, voilà, et c'est aussi complètement gratuit pour les aidants, hein. Il suffit de s'inscrire. Ça c'est un petit nouveau, c'est l'atelier prendre de soin de soi, ça vient de démarrer, alors c'est la méthode Feldenkrais. Voilà, c'est aussi de la relaxation, c'est en complément du groupe de relaxation et ça permet de proposer un moment de détente à l'aidant familial. Voilà, donc ça aussi, toujours l'exemple de programme. Alors le volet 5, le soutien psychologique individuel, donc Justine vous a dit qu'elle était à 0,10%, donc ça c'est les contraintes financières, mais c'est vrai qu'il y a une demande qui augmente, hein, sur le soutien psychologique individuel.
Alors c'est vrai qu'en 2011, quand le service des FNAP a été rattaché au CESVAD, j'étais déjà salariée au CESVAD. Donc le temps qui était potentiellement finançable, c'était en 0,10. Ça allait bien parce qu'au début, c'est ce que je vous disais, les gens venaient sur des formations sur le groupe de parole et puis psychologie individuelle, c'est le truc, aller voir le psy, on n'a pas trop envie. Et puis voilà, on a appris à se connaître avec les aidants et petit à petit, ils ont commencé à faire la demande davantage de suivi psychologique individuel. Je reçois aussi des couples, ça peut être temporaire. Ça peut être une réorientation aussi vers un suivi plus spécialisé. Enfin, vraiment, on est souple, on n'est pas rigide au FNOT et on est vraiment au service du besoin des aidants familiaux et des familles. Et de plus en plus, c'est des demandes de soutien individuel. L'idée, c'est vraiment d'offrir un temps d'écoute pour l'aidant familial parce qu'on est souvent centré sur la personne en situation de handicap. La famille, on va la convoquer pour avoir des infos. Hein. Vous pouvez me donner le dernier bilan médical, etc. Mais finalement, le vécu de l'aidant et un temps d'écoute pour dire « je suis épuisé, j'en ai ras-le-bol, j'étais sur le périphérique, j'ai failli faire un accident parce que j'étais en train de sauter au prochain bilan. » Enfin, ça, c'est quelque chose qui est peu pris en compte. Et c'est de pouvoir aussi offrir la possibilité de réexplorer son parcours à l'aidant. C'est-à-dire, mon enfant est né avec une situation de handicap, j'ai pas eu le temps de penser à ce qui allait m'arriver, parce qu'on est jeté dans l'événement et on gère, on prend tout en charge, parce qu'on se pose pas la question, parce que ça va de soi, parce que c'est viscéral qu'on va le faire et on le fait d'emblée. De la même façon, quand un accident surgit, j'ai énormément de conjointes de personnes qui ont eu un accident vasculaire cérébral, accident de la route, et on va là-dedans, et puis la situation s'améliore pas forcément au niveau de la santé de la personne aidée, et puis d'un soir, on s'épuise parce qu'on pensait que ça allait pas durer longtemps. Offrir ce temps d'écoute pour réfléchir à la situation, voir ce qu'on vit, voir comment est-ce qu'on pourrait s'accorder du répit ou pas, comment on pourrait s'organiser, qu'est-ce qu'on pense de cette situation, se poser des questions sur la relation avec l'aidé aussi, ce qu'on disait, les jeux relationnels, les conflits, comment est-ce qu'on comprend tout ça. C'est extrêmement important et déculpabiliser parce que le sens du devoir, il est là d'emblée. Les équipes médicales, souvent, se reposent beaucoup sur l'aidant familial et s'autoriser derrière ça du temps pour soi, de dire, bah là, j'ai pas envie d'être aide-soignante, j'ai pas envie d'être infirmière. Parfois, on a envie de le faire et on peut le faire. Et bah, parfois, on peut pas ou on peut plus. Et avoir un espace pour penser ça et s'autoriser à se poser des questions et s'autoriser à parfois apporter certaines réponses qu'on avait déjà mais qu'on n'osait pas formuler, c'est extrêmement important. Voilà, le soutien psychologique individuel, c'est ce que je disais, c'est vraiment, j'ai des conjointes, j'ai des parents, j'ai des couples, et à des niveaux du parcours par rapport au handicap très diversifiés, et je suis pas figée dans une réponse type ou dans un type d'accompagnement précis. Voilà, on réagit à chaque fois, on essaie de répondre vraiment à aux besoins des aidants.
Alors le volet 6, c'est les conseils juridiques personnalisés, parce qu'on s'est rendu compte dans les formations que les aidants qui participaient, ils avaient des questions. Certes, ils venaient de prendre de l'information, mais après, ils avaient des questions personnelles. Et donc, l'association Jurisprudence propose des rendez-vous individuels Alors c'est un petit peu réglementé, c'est quelques rendez-vous, mais ça permet de, après même d'accompagner, par exemple pour le mandat de protection future, l'association peut accompagner la personne chez le notaire, enfin là où il y a vraiment un accompagnement de, par rapport à la démarche, donc c'est intéressant aussi. Alors, si j'ai pas beaucoup de temps encore, je vais vraiment insister sur la coordination du service, parce qu'au départ, le Conseil général, par rapport au répit, il nous disait, mais vous avez qu'à envoyer ces aidants auprès de services d'aide à la personne, il en existe plein, et puis bah voilà, il y aura un contrat entre le service et la personne, et ça suffira. Et on leur a expliqué que non, dans ce type de service, il fallait vraiment, pour répondre aux besoins des familles, qui est quelqu'un de dédié, donc qui va être la coordinatrice du service, qui va accueillir les nouvelles demandes et informer les familles, qui va remettre bien sûr les documents liés au fait qu'on est une structure médico-sociale, hein, les chartes, contrats, qui va orienter, réorienter si c'est pas à la bonne porte que la famille a frappé, par exemple pour une personne âgée, qui a un rôle d'écoute, qui recueille les besoins de l'aidant, qui va aussi, s'il y a une demande de répit, de phonotage, elle va se rendre avec le service d'aide à la personne qu'on aura proposé pour l'évaluation de la situation, pour rencontrer la famille à domicile et bien sûr la personne en situation de handicap. Elle va l'aider aussi à faire un point par rapport à son dossier PCH, est-ce qu'elle a bien connaissance de tous ses droits, l'aider au montage financier, puisque tout ce qui est formation et suivi psychologique et juridique individuel est gratuit. La seule chose qui n'est pas gratuite dans le service, c'est le répit. C'est-à-dire que si la famille a besoin de passer par un service d'aide à la personne, il faut qu'elle finance, suivant le nombre d'heures qu'elle va demander, bien sûr, le professionnel. Donc là, on va aider la personne à trouver les finances pour le faire, en sachant que c'est quand même une des limites du phonotage, c'est le coût que ça représente pour la famille. Et puis, on va évaluer la prestation. Tout au long du phénotage, la coordinatrice va évaluer, participer à l'évaluation de ce qui se passera entre le professionnel qui viendra à domicile, cette phénote, et la personne en situation de handicap, et comment la famille vit son absence, si tout se passe bien. Elle anime et développe un réseau partenarial, hein, parce qu'on vous l'a dit, on travaille avec beaucoup de partenaires, on veut pas tout faire en intérieur, hein, on veut profiter de ce qui existe sur le réseau, et puis faire du lien. Alors, lien avec les autres services du CESVAD, puisque les FNUP sont un des services du dispositif. Mettre en lien les aidants entre eux selon leurs problématiques, parce qu'elle les connaît bien. Donc, elle peut parler d'un aidant à un autre et éventuellement se faire rencontrer les personnes. Faire des liens entre les différents volets du service. C'est sûr, hein, il y a des personnes qui viennent aux formations pour la première fois, et puis ils vont rencontrer un aidant familial dans la formation qui a déjà profiter du phonotage qui va lui en parler. Donc les aidants vont peut-être après faire la demande de répit, puis d'autres vont commencer par le répit, puis on leur parlera de formation après. Donc il faut faire les liens entre tous les volets du service, et puis rester en veille sur toutes les passerelles possibles selon l'évolution des besoins de l'aidant familial. Communiquer, alors ça on essaye de beaucoup communiquer. Voilà, aujourd'hui c'est une action de communication. Organiser les formations, les groupes, rechercher les intervenants, inscription des participants, etc. Informer, diffuser les programmes du service. Alors elle a créé un fil d'actualité, parce qu'on se rend bien compte que les aidants familiaux, ils viennent pas tous les mois. À un moment donné, ils ont moins de disponibilité, donc c'est important qu'ils reçoivent quand même l'information, et puis le jour où ils seront disponibles, ils viendront peut-être. Donc il y a ce fil d'activité, et puis répondre à des demandes ponctuelles de renseignements, puisque le service commence à être opéré sur le département. Évaluer, rendre compte, bien sûr, de tout ce qui se passe dans le service, et ça dans le but d'être du financeur. Voilà, donc on voit notre directeur de délégation, Gaël Brand, que peut-être certains connaissent à la course des héros, puisque ça fait 2 années de suite qu'on court à la course des héros pour obtenir des financements complémentaires. Parce que, donc, comme je vous le disais, pour l'instant, le service vit avec des excédents du CEPOM, c'est un contrat d'objectifs et de moyens avec le Conseil général, donc il est bien d'accord pour... que nos excédents, on les mette sur ce service, mais il n'a pas été pour l'instant encore d'accord. de le financer. C'est un coût qui n'est pas très important, hein, pour vous donner une idée, c'est 55 000 euros par an, mais on se bat depuis 7 ans pour les obtenir. Donc ça perdure parce que, heureusement, les structures arrivent à faire quelques économies, mais on est très inquiet quand même pour l'avenir. Et surtout, ce service n'est pas autorisé, il n'est pas pérennisé. C'est encore un service associatif de l'APF. Et ça, c'est un problème. C'est un problème pour l'avenir, mais c'est aussi un problème parce que, par exemple, le Conseil général ne veut pas en faire la promotion parce qu'il est associatif et il ne veut pas faire plus de promotion pour une association que pour une autre. Et par exemple, ce serait très important qu'on puisse être repéré par les personnes qui viennent voir pour la première fois, les personnes des Maisons du Rhône, du Conseil de la MDPH, qui viennent voir pour la première fois pour évaluer un plan d'aide, pour que si un aidant va être dans ce plan d'aide, et on puisse lui dire d'emblée, certes, vous êtes aidant, mais vous pourrez avoir du répit, parce que vous ne pourrez pas être aidant 365 jours par an. Et donc déjà de lui parler de nous et que la personne ne fasse pas un parcours du combattant pour arriver jusqu'à notre service. Voilà, on a eu pas mal de prix, de subventions, donc on est content. Le dernier en titre, c'est le trophée coup de cœur donc du congrès du Répit des aidants. Il y a eu un congrès à Lyon, premier congrès de France Répit, et on a eu donc le coup de cœur. Tout ça, ça montre que cette problématique de l'aidant, elle est maintenant connue, on ne revient plus là-dessus, mais par contre, la question est toujours effectivement financière. Voilà, donc c'est un projet qui est totalement en cohérence avec la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Hein, on entend quand même beaucoup parler de projets de ce type pour les personnes âgées. Et puis bien sûr, dans toutes les recommandations de l'ANESM, hein, l'Agence nationale d'évaluation sociale et médico-sociale, eh bien, on recommande à tous les professionnels qui travaillent dans ce secteur de prendre en compte cette problématique de l'aidant familial, qui aujourd'hui, il faut bien le dire, si on veut parler d'argent, permet des économies importantes à l'État. Parce que sur un plan d'aide, si vous avez 7 heures du plan d'aide par jour, par exemple, qui est pris en compte par l'aidant familial, eh bien l'aidant familial va être indemnisé 4 euros de l'heure, alors que ça coûtera 17,59 euros au Conseil général. Donc il y a une vraie économie, c'est pas la seule motivation, et il faut que l'État s'en rende compte. Et pour que l'économie elle perdure, il faut que ces aidants ils puissent continuer le plus longtemps possible et donc qu'ils puissent effectivement souffler, avoir du répit. Au niveau du projet à l'origine, on avait imaginé qu'un aidant familial il devait avoir droit à autant d'heures de répit qu'un salarié qui travaille. Donc on était parti sur la base de 10%. C'est-à-dire 10% des heures qu'il donne à la personne en situation de handicap en l'aidant, en l'accompagnant, que ce soit la nuit, le jour, le week-end, eh bien au moins 10% de ses heures, il faut qu'il puisse s'échapper, faire d'autres choses, partir en vacances, en week-end, ou simplement faire une formation, aller à l'université, enfin avoir un petit moment de vie, et ça, ça permettra seulement à ces personnes de tenir plus longtemps. Vous avez dû entendre aussi que souvent les aidants décèdent avant la personne. Ça, c'est quelque chose qu'on commence à vraiment mettre en avant, notamment chez les aidants de personnes âgées, parce que c'est quelque chose qui use, et en plus, l'aidant ne se permet pas de dire qu'il est usé, donc c'est encore plus difficile, être usé sans pouvoir le dire. Donc franchement, je crois que les pouvoirs publics ont vraiment intérêt à partir et à dynamiser cette offre à tout niveau. Voilà, donc simplement je voudrais la dernière, c'était le retour des dents. Donc c'est simplement des petites phrases hein, des dents. Un grand merci à toute l'équipe des FENOT pour tout ce qui est fait pour nous aider. Votre soutien et engagement nous redonnent courage et force. Le service des FENOT est un service très à l'écoute, très humain. Vraiment une bonne initiative de l'APF. Le service des FENOT est formidable, mais je n'en profite pas assez par manque de temps et de disponibilité. Je participe très peu à vos formations, bien que l'idée soit très bonne. Votre accueil est très sympathique et c'est toujours enrichissant de partager avec d'autres. Merci et bonne continuation, car les jeunes parents ont sûrement besoin de votre soutien. Il faudrait faire plus connaître ce service. Voilà, donc l'équipe des FENOT, hein, donc Marie-Hélène qui est là, qui est bénévole et qui a initié le groupe. Serge Prost, un autre bénévole de l'APF, moi-même, Gaël, donc Brand, qui est directeur de la délégation et qui reste toujours dans le groupe projet et qui soutient complètement ce service, Justine et Capucine, qui n'est pas là, mais qui est la pièce maîtresse quand même du service, puisque c'est la coordinatrice. Voilà, donc nous, ce que nous on souhaite, c'est que... alors on a reçu beaucoup d'équipes qui sont venues nous demander comment on faisait, etc. Ce qu'on aimerait vraiment aujourd'hui, c'est plus avoir demain le souci de est-ce qu'on va encore être financé. Capucine, elle voudra bien être sûre qu'elle sera là en 2016, mais c'est compliqué. Donc on va peut-être aussi se retourner vers l'ARS, puisque le Conseil Général, ça ne se fait pas. En plus, on a un autre problème sur le Rhône, c'est que en janvier 2015, c'est métropole, il va y avoir constitution d'une métropole et le Conseil Général ne veut plus, ce sera plus eux l'interlocuteur, donc il va falloir recommencer toute notre dynamique de communication auprès de métropole. Mais en tous les cas, on pense vraiment que c'est une offre qui mérite toute attention.
Ce service qui a l'air d'être formidable, qui doit être formidable, je pense, n'est pas mis en place en tant que délégation.
À ma connaissance, il y a quand même plusieurs départements qui travaillent sur l'aide aux aidants. Hein. Je ne sais pas s'il y a des... personne d'autres départements, mais il n'y a pas que le Rhône. Hein.
Moi, c'est une autre question, parce que bon, c'est vrai que c'est une demande forte des familles, hein, d'avoir un peu de répit. Et au niveau de l'association, on avait même des bénévoles qui étaient prêts à aller dans les familles pour leur accorder un peu de répit. Mais c'est posé la question de l'assurance. L'assurance, c'est-à-dire, bon, voilà, je vais dans une famille pour leur donner un peu de répit, leur enfant fait une crise d'épilepsie, meurt, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc la question qu'on s'était posée. Et est-ce que vous avez peut-être une réponse juridique à nous proposer?
Alors, moi, je déconseillerais tout à fait ce type de démarche. Hein. Aujourd'hui, on est quand même dans une société où, voilà, les procédures, etc., enfin, ça peut être mettre en grand danger un bénévole. C'est accompagner une personne en situation de handicap, parfois très dépendante. Pour une famille, elle a appris à le faire, on lui a appris, elle a rencontré les médecins, etc. Pour une auxiliaire de vie, c'est pas simple, il faut la former, l'informer. Et en gros, dans le cas du bénévolat, le jour où il y aura un problème, on oubliera que c'était une bénévole. Et au départ, on avait commencé par les chèques emploi-service. Même ça, on a arrêté, parce que le chèque emploi-service, c'est un contrat de travail. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites un chèque emploi-service, c'est comme si vous faisiez un contrat de travail avec la personne. Et du coup, ça entraînait, quand le vieux-notage s'arrêtait, toutes les problématiques de licenciement, de prud'homme, etc. Et c'est assez compliqué de gérer un particulier à domicile. Donc c'est pour ça qu'on a préféré passer par les services d'aide à la personne, où les professionnels sont salariés et c'est le service qui prend en charge la responsabilité de... Voilà. Alors, quand tout dépend aussi de l'aide, hein, et tout dépend de la situation de handicap. Mais je pense qu'il faut aussi protéger les bénévoles, et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Même une situation qui se passe bien. Nous, récemment, on a eu un décès d'une jeune personne en situation de handicap dans le service. On n'était pas là. C'était l'auxiliaire de vie qui était présente. Je peux vous dire que derrière, il faut vraiment assurer que la personne est formée, qu'elle a fait sa formation au premier secours, etc. Parce que dans la détresse, tout part en live et on peut accuser la personne de ne pas avoir été assez présente. Voilà, donc c'est une limite quand même du bénévolat dans quelque chose qui... une aide qui est complexe.
Hein. Bonjour, moi j'aurais voulu savoir... Vous intervenez sur tout le département du Rhône. Donc, je voulais savoir quel pourcentage vous aviez de personnes en dehors de l'intramuros de Lyon qui venaient bénéficier de votre service, qui est donc un service très
sur les familles. Hein. Donc si vous avez pu acter, combien il y en avait qui venaient du fin fond du Rhône pour venir à votre service, parce qu'ils ont droit comme trésor. Je pense que vous êtes
bien sûr. C'est l'équité. Alors bon, c'est bien que l'équité, elle n'existe pas, hein, même si on essaye d'aller vers. En tous les cas, en ce qui concerne les formations, par exemple, dernièrement, on a décentralisé notre atelier Fedenkreis sur l'ouest lyonnais, parce que justement, plusieurs aidantes avaient du mal à venir à Villeurbanne, où on se situe, et du coup, on a cherché une salle sur l'ouest lyonnais, et la séance de relaxation sera là-bas. Par rapport au phénotage, ben, pas de problème, parce que vous habitiez, on va vous aider même si vous habitez dans la campagne rurale des Monts du Lyonnais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher un service à proximité. On va peut-être pas utiliser les mêmes services qu'en ville, mais en tous les cas, la coordinatrice pourra se déplacer dans les Monts du Lyonnais et permettre et aider au répit. Après, voilà, toutes les autres formations qui se font dans Lyon. Bien, c'est à nous de réfléchir, de voir d'où sont les personnes, hein, parce que le problème, c'est s'il y en a une là, mais on sait que c'est le trajet, enfin déjà la personne, l'aidant a du mal à prendre 2 heures, mais s'il y a 2 heures de trajet, c'est encore plus compliqué. Hein.
Et après, je voulais savoir si vous avez fait des échelles d'évaluation en début de répit, et vous êtes à combien, à 2 années ou 3 années
du sept, combien, 7 ans, hein?
À 7 ans. Donc, est-ce que vous avez pu évaluer l'impact sur la santé des familles, enfin, sur la santé des aidants? Voilà, parce que j'ai vu que vous aviez pris en référentiel une partie de l'échelle du Nisarit, hein, et enfin, si je vous dis ça, moi, je suis partie vers les autres promotions de santé, donc sur la région de Toulouse, où auquel on a évalué. Bon, on fait exactement ce que vous faites, mais donc, pas rattaché à l'APF, on est que des libéraux. Et nous, la différence par rapport à vous, c'est qu'on va au domicile des patients. Tout se passe au domicile du patient. Enfin, de l'aidant. Tout se passe au domicile de l'aidant, sauf les groupes de parole Et nous, on a évalué, on a fait une évaluation, et il s'avère que les aidants, on a pu repérer qu'ils prenaient 30% en moins de médicaments, 30%, voire 50%, ils dormaient mieux. Enfin, on a vraiment, voilà, on l'a évalué. Et on sait, les pouvoirs publics, ils sont surpris, enfin, demandeurs, une évaluation concrète, palpable derrière. C'est vrai que si. L'aidant ne va plus chercher son somnifère à la pharmacie, c'est grandiose, quoi, je veux dire ça. C'est une double économie.
Oui, je vais répondre. Je ne comprends pas quand vous dites nous on va au domicile, parce que là, il serait plus à domicile. Donc, c'était à domicile que ça se passe. Sinon, on a utilisé les 3 premières années le fardeau d'Ari. Et voilà, ça ne nous a pas montré un intérêt majeur, donc ça a été arrêté.
Après, moi, dans les entretiens que j'ai avec les aidants, je leur demande systématiquement, est-ce que vous avez un traitement antidépresseur? Parce que j'ai énormément, alors j'ai beaucoup de femmes dans mes suivis individuels, on voit bien que les aidants principales sont des femmes, et je demande systématiquement, est-ce qu'il y a un traitement anxiolytique, antidépresseur, etc. Parce que j'ai besoin de mesurer ça, et de savoir s'il y a un médecin traitant de famille qui fait ça depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et là, je fais de la prévention là-dessus, et de la sensibilisation au fait qu'un antidépresseur qui est pris depuis des années et des années, on peut questionner la pertinence. Voir, voilà, il y a énormément d'études qui montrent que c'est quand même pas très bon, notamment pour le cerveau, de prendre des anxiolytiques et des antidépresseurs pendant des décennies. Donc moi, vraiment, je fais un travail de fond là-dessus, sans porter de jugement, sans dire qu'il faut arrêter, mais en disant que ça peut être bien peut-être de reconsulter un psychiatre, parce qu'il n'y a pas meilleur spécialiste qu'un psychiatre pour savoir quelles sont les dernières molécules, pour voir si oui ou non c'est adapté encore plus qu'un généraliste, même si les généralistes font un travail très bien et très important et essentiel de premier contact de terrain. Après, vous dites on intervient au domicile, et c'est vrai que ça facilite. Nous, on fait du répit au domicile, la coordinatrice se déplace au domicile. Sur les situations extrêmement complexes, je me déplace au domicile. Le soutien juridique également, c'est au domicile, en effet, avec le service prestataire qu'on a sous convention. Il y a aussi quelque chose sur lequel moi je suis mesurée. Je trouve extrêmement intéressant quand on arrive à amener un aidant, notamment pour le suivi psychologique, le groupe de parole aussi, quand on arrive à amener un aidant à sortir de ces quatre murs, et à, quand c'est possible, on est toujours d'accord, hein, parfois bien compliqué, les dames qui sont au fin fond des monts du Lyonnais, leur dire venez à Villeurbanne, vous le voir, et ça leur prend tout l'après-midi. Mais ceci dit, je le dis parce que pour des gens qui sont parfois sur les communes limitrophes, ah, mais ce serait plus pratique, etc. Et combien m'ont dit, bah, vous avez bien raison, parce que j'ai besoin de dire des choses ailleurs que chez moi, et que ce trajet avec la radio, de la musique, j'en ai profité pour voir une copine, déjeuner avec elle avant votre rendez-vous, et ben parfois, ça contraint un peu les dents à revoir l'organisation, c'est pas toujours possible. Bien sûr, il y a des limites et le répit, on aimerait arriver à le mettre en place plus facilement. Mais voilà, c'est important aussi qu'il y ait des choses qui se fassent en dehors de la maison, parce qu'avec l'aider juste à côté, ben on dit pas les mêmes choses, pas de la même façon, enfin voilà. Mais c'est complémentaire avec ce que vous disiez, c'est pas du tout contradictoire.
Oui, je vois que sur le Rhône, vous êtes effectivement très très en avance par rapport sans doute à beaucoup de délégations, dont la nôtre, le 77 à Seine-et-Marne. Nous avons démarré depuis peu de temps en fait un travail sur l'aide aux aidants familiaux. Alors en fait, on a commencé par faire une enquête pour connaître un petit peu les besoins des aidants, et puis on s'est aperçu effectivement qu'il y avait 80% des aidants qui nous disaient être vraiment fatigués, ils étaient épuisés. Alors, ce chiffre, on s'est dit finalement, il faut déjà en faire quelque chose, puisque c'était le début de notre travail. Et ce qu'on a fait, en fait, on a décidé de faire une première réunion dans laquelle on fait venir donc, les aidants. Et un kiné. Le kiné, en fait, va apprendre les différentes postures à utiliser pour éviter effectivement de se casser le dos, comme il y a beaucoup d'aidants qui sont dans ce cas-là. Ensuite, ce qu'on va faire en un deuxième temps, on va aller dans un des établissements donc, de Seine-et-Marne, un établissement donc, de la PS, et on va emmener les aidants pour leur montrer un petit peu les différents matériels à utiliser, comment les utiliser, le coût, à quelle porte frapper pour avoir de l'aide, enfin voilà où, un petit peu où on en est. Donc après, je ne sais pas trop, on verra un petit peu comment les choses vont se...
C'est comme ça qu'on a commencé, hein, donc il faut... croire à ça. Il y a une autre chose que je voulais préciser aussi par rapport à ce que vous dites, c'est que le service des phonotes, il a permis et il permet encore, et ça, ça intéressait beaucoup le Conseil Général, de repérer des aidants familiaux que moi j'appelle un peu perdus de vue, c'est-à-dire qui sont un peu en dehors du droit commun, alors qui par exemple n'ont pas passé l'étape de la loi 2005, qui ont pas, qui par exemple vous prenez... une mère une personne en situation, son fils en situation de handicap, mais la mère a vieilli et puis le fils est devenu aussi très adulte. Et elle est restée avec l'allocation compensatrice tierce personne. Personne lui a dit que la PCH ça existait. Elle n'est pas non plus allée chercher de l'information. Elle s'occupe de tout et voilà. Et ça, on a pu repérer quelques personnes comme ça. Où on s'est dit, mais c'est pas possible, quoi, parce que ces personnes n'ont même pas l'application de leurs droits, quoi. Alors, c'est pas nous qui faisons tout le travail, mais on leur donne des conseils, on les oriente. Et c'est drôlement important parce qu'on croit que tout le monde est au courant de tout, mais c'est pas le cas. Et c'est un vrai parcours du combattant, des fois, pour avoir ses droits, les droits liés au handicap et... Donc ça, c'était intéressant par le biais d'une personne qui peut passer un coup de fil parce qu'elle ou elle voit sur un site ce que c'est que les phonotes. Et là, on se rend compte que elle n'a pas rencontré de travailleurs sociaux, elle n'a pas fait évoluer le dossier du handicap de son fils depuis des années. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire. Hein. Et puis dans quelques temps, cette personne, elle va décéder et là, on va être devant un problème aigu parce que ce sera quoi? Ce sera l'hospitalisation. De la personne en situation de handicap et ça n'aura pas été préparé du tout. Et c'est ça aussi auquel il faut qu'on se prépare en France, hein, parce que les aidants familiaux vieillissent. Et à un moment donné, il va bien y avoir un problème. Et c'est pour ça que France Répit prône beaucoup ces questions. Et là, sur le Rhône, il y a un projet de maison des aidants
qui serait donc mis en place par France Répit, qui est très très intéressant et qui attend actuellement un appel à projet de l'ARS pour aboutir. Mais il faut vraiment que ce soit une préoccupation très très actuelle, parce que demain il manque des places pour les personnes, hein. Donc de toute façon on n'a pas les places en institution pour prendre ces personnes dont les aidants ne seront plus là. Et ces aidants sont vieillissants aujourd'hui.
Alors, une question, en fait, vous allez voir en lien avec la remarque de la dame devant, quoi. C'est ici, en fait. Ici. Quels sont les sites, par rapport au répit, quels sont les sites de vous, dans les personnes que vous suivez? Et si je pose la question-là, c'est parce qu'en fait, moi, je suis de la CVS, la CETA de la CVS. Une directrice, pas très bien, mais en l'occurrence, il y a deux mois, vous savez, on est sur des renouvellements d'agrément, on fait des enquêtes, des machins, on va bloquer. Et donc, en fait, je posais la question parce que j'avais vu, juste à côté, en fait, j'avais vu un exemple qui avait du récup par rapport à cette table, en fait, aussi. Et en fait, quand j'ai posé la question là, donc à la directrice, là, parce que je suis. Mais bon, justement, je ne vais pas parler. Aucun autre parent n'a pas été sollicité ça. Sachant que moi, ce n'est pas par rapport à moi, parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir mon parent qui s'occupe de ma fille. Mais pour des parents dont les enfants étaient plus lourdement handicapés, je me suis dit, moi, j'avais trouvé ça bien comme idée, quoi. Et bon, en fait, la réponse qui m'a été apportée par la directrice, c'était de me dire que nous, c'était de l'ordre moteur, et que chez nous, ce n'était pas autant prégnant que dans le cas de figure d'un centre qui s'est trouvé pour y aider des équipes. Et donc, c'est pour ça qu'après, je suis quand même. Et donc là, c'est ça la pièce. C'est vrai que par rapport à ce que disait madame, c'est vrai que si ça vient d'en haut, visiblement, c'est quand même toujours plus simple qu'un CETAD, qu'un CDS, qu'on est purement opérationnel, consultatif, quoi.
Je vais juste dire que l'évolution de notre public va actuellement vers les parents d'enfants handicapés, polyhandicapés, autistes, et qu'on a de plus en plus de demandes. Donc, je crois que, voilà, on parle des aidants vieillissants, mais il y a aussi des aidants jeunes qui se battent dans des situations compliquées, des mères qui ne peuvent pas garder leur emploi, c'est compliqué. Alors, c'est encore plus difficile de les atteindre, parce que quand l'aidant travaille, en plus de l'aide qu'il apporte à son enfant, pour arriver à le faire venir à une formation, c'est impossible, hein. Donc, il faudra aussi que nos services ils s'adaptent peut-être au niveau des jours d'ouverture, aux heures d'ouverture, parce qu'on a de plus en plus de demandes de familles.
Moi, ce que je voulais savoir, c'est que tout à l'heure, vous aviez parlé des aidants qui sont usés, les aidants qui meurent avant les aider, et que vous n'aviez, on avait pour le moment qu'une solution pour ces gens-là, c'est l'hospitalisation, c'est-à-dire les maisons de retraite, c'est-à-dire les hôpitaux psychiatriques. Et je me dis quand même, est-ce que dans à l'APF, est-ce que dans les autres associations, on pourrait pas inventer, être inventif sur le devenir de ces gens-là? Parce que quand on voit tout le travail qui a été fait en amont, de les retrouver en hôpital psychiatrique, moi je trouve ça exorbitant. Il me semble qu'il y a quelque chose à faire. J'ai toujours pensé qu'il y a quelque chose à faire. Je n'ai toujours pas trouvé et j'aimerais bien trouver.
Je pense qu'à l'APF comme ailleurs, on travaille beaucoup sur les personnes handicapées vieillissantes, hein, parce que ça va être un petit peu ce public-là, dans quelques temps, qui pourra pas rester à domicile parce que leurs aidants ont disparu. Donc il y a, oui, plein de réflexions à avoir, hein. Aujourd'hui, il faut partir sur des solutions innovantes, qui coûtent pas cher, où on sollicite le moins possible l'État. Mais je pense qu'il y a déjà des équipes qui travaillent là-dessus. Et puis l'autre chose aussi, c'est qu'il faut le préparer, ça. C'est pas le jour où ça arrive qu'on parvient à bien gérer la situation. Donc il faut aider les aidants à envisager ça, et ça c'est compliqué, très compliqué. Et il faut préparer la personne par des séjours temporaires, par aussi aller faire des visites, par des départs en vacances. Enfin, il faut préparer aussi la personne handicapée à une autre étape de son projet de vie. Et ça, c'est très en amont. Parce que je vois, par exemple, par rapport au mandat de protection future, les familles qui viennent aux formations, elles sont directement concernées. Normalement, elles sortent de la formation, elles devraient quasiment agir. Mais non, il faut beaucoup, beaucoup de temps. Il faut vraiment donner du temps au temps. Et C'est comme vous, vous vous dites, oui, je vais peut-être, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, écrire mes directives anticipées. Et puis finalement, demain, vous ne le faites pas, puis vous ne le faites pas, puis voilà. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce travail-là en amont, et je suis d'accord, il faut qu'on continue à innover dans les structures, et pas des grosses structures, et qu'on s'adapte le plus à la demande.
Je voudrais juste compléter une petite chose avant de laisser la parole à Marie-Hélène. On part aussi de très loin pour certaines familles par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de familles qui ne savent même pas qu'on peut faire une demande d'orientation pour des séjours temporaires. Donc le temps d'obtenir l'orientation, des choses toutes bêtes, ce que disait Madame Anselme Levrault, c'est qu'il y a des séjours à anticiper psychologiquement, mais aussi administrativement, et il y a des familles qui ont ça qui ne savent même pas que c'est possible d'avoir une orientation temporaire de 3 fois 30 jours par an. Voilà.
Juste un dernier mot, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas que le secteur médico-social qui s'intéresse aux aidants. Aujourd'hui, les grandes entreprises ont commencé à avoir l'intérêt parmi leurs salariés de soutenir leurs salariés parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y en avait plein qui étaient des aidants familiaux, en plus d'être leurs salariés, et que d'être aidant familial, ça se répercutait sur leur qualité au travail. Donc, même ce secteur-là se mobilise. On entend des salariés dans certaines entreprises qui mettent en place, qui cumulent leur RTT pour... Donc il faut continuer. Il n'y a pas que le secteur médico-social, donc il faut que ce secteur-là le prenne en compte, quoi.